Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, toi qui as vu Jésus se préparer à son ministère public, toi qui l'as accompagné, nous te demandons ce soir de mettre dans nos cœurs plus profondément ce désir de participer à l'œuvre du Père, à cette mission qu'il nous a confiée. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Je me présente un tout petit peu pour que vous sachiez d'où j'arrive. Donc, comme je disais, Père François, donc moi, je suis prêtre du diocèse de Paris depuis 2007. Et depuis 5 ans, donc, je m'occupe principalement du pôle mission, qui est un petit organe donc, qui a été créé pour accompagner les paroisses dans des initiatives missionnaires. Donc, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup Paris, puis maintenant ça s'élargit un peu, parce que comme on a des propositions... En ligne, voilà, il y a des gens que ça intéresse, il y a quand même pas mal d'endroits en France où ils sont moins accompagnés qu'ici. Moi, cette perspective de la mission, elle avait un peu émergé quand même dans ma vie de prêtre, en gros depuis l'ordination, progressivement. Je m'y suis mis, alors je vais parler pas mal parce que c'est mon expérience à moi de l'évangélisation directe, mais quand je parle de mission, c'est beaucoup plus large que ça. Donc moi, c'est mon expérience, parce que je n'ai pas beaucoup de collègues de travail non catholiques, par définition. Donc, si je veux rencontrer des non-chrétiens, je suis obligé d'aller un peu sur les extérieurs. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur le trottoir pour rencontrer des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Quoi. Et quand je vais parler de mission, je vais aussi parler de mission au sens quand même de l'annonce explicite. C'est vrai que dans la dimension missionnaire, on peut prendre la mission dans un sens très large, on pourrait dire contribuer à l'édification du royaume sur terre, donc par son travail, comme laïc, on est missionnaire dans le monde, on participe à l'édification du royaume. Par son témoignage de vie, nous sommes missionnaires, mais là, d'une manière particulière, j'ai parlé du moment où on dit au nom de quoi nous agissons de cette manière, donc le moment de l'annonce explicite, qui, comme le disait Paul VI, il y a un moment où nous sommes comme un peu obligés d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose. Quoi. C'est-à-dire, comme j'aime dire, je dirais les gens ont droit à la bonne nouvelle. Donc nous, il y a un devoir de notre part, mais c'est parce qu'il y a un droit. Les gens ont droit de savoir. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont le droit de savoir. Voilà, on est dans une semaine où nous voyons que je dirais le cadre sociétal dans lequel nous sommes est plutôt obscurcissant que clarifiant. Donc, il y a d'autant plus de motifs à titre individuel aussi d'aller rejoindre des personnes qui, prises dans des structures de péché, aussi vont voir de moins en moins la vérité peut-être. Donc là, le thème, c'est de parler de la joie, je crois que c'était le thème de votre année, donc de la joie de la mission, et là, de l'appliquer à la mission. Je vais à la fois parler de mon expérience, mais peut-être plutôt essayer de faire la preuve par les Écritures, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous donne un certain nombre d'éléments qui nous indiquent, au fond, où est-ce que nous pouvons trouver ou comment nous pouvons entrer dans la joie que Dieu veut nous donner. Peut-être la première chose à rappeler sur la joie, c'est que Jésus nous dit que son intention, c'est que notre joie soit complète. Il le dit dans le discours après la scène, au chapitre 16. Il dit « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc c'est vrai qu'il y a une intention du Christ que nous soyons dans la joie. Pas un jour peut-être, non, maintenant. C'est-à-dire qu'il le dit maintenant pour nous. Mais une fois qu'il a dit ça, il est bon d'aller regarder, je dirais, la manière dont Jésus nous dit que nous pouvons accueillir, on peut en vrai dire recevoir cette joie qu'il veut nous donner. Voilà, mais en tout cas, je pense que la première chose, c'est cet acte de foi dans cette parole de Jésus, en fait, qui nous dit que nous pouvons vraiment recevoir une joie forte, quoi, parfaite, on peut garder le mot, parfaite, quoi. Il veut ça pour nous. Et il y a le témoignage des saints, un certain nombre, qui attestent, en fin de trajectoire en général, que c'est vrai. Que c'est vrai. Mais il y a les saints estampillés, puis il y a des saints qu'on voit un peu moins passés. Moi, je ne sais pas, personnellement, dans ma paroisse, j'accompagne un groupe de, on va dire, quatrième âge, et dedans, il y a quelques personnes où on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une joie un peu permanente, qu'elle a. Ça n'enlève pas les problèmes, c'est-à-dire ces gens qui ont des problèmes comme tout le monde, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient, quoi. Donc il y a une parole de Jésus, il y a la vie des saints, et puis il y a la vie du peuple chrétien ordinaire. Et d'une manière spéciale, nous voyons, il y a un certain nombre d'éléments qui nous disent que cette joie complète, ou cette joie va être complète, si dedans, dans la manière de vivre, il y a aussi cette dimension missionnaire. Alors peut-être un premier élément en ce sens, c'est que dans les évangiles, c'est des choses que nous savons très bien, mais les évangiles se terminent par cet envoi en mission. La messe se termine par l'envoi en mission, les évangiles se terminent par l'envoi en mission. Donc on pourrait dire un point d'aboutissement de la parole de Dieu pour nous, c'est Jésus qui dit « Allez, parmi toutes les nations, faites des disciples. Allez proclamer l'évangile à toute la création », la version de Marc. Il est évident que notre joie, elle est liée au fait d'accomplir ce que Dieu nous demande. Ça, nous avons déjà l'expérience, je pense, dans d'autres domaines, en fait, quand nous réalisons ce que Dieu demande, mais c'est-à-dire qu'il nous montre ce pourquoi nous sommes faits, c'est là que la joie peut venir. Donc il serait étonnant qu'il n'y ait pas un gisement de joie significatif à accomplir cette grande parole de Jésus qui est la dernière parole, en fait, qu'il nous laisse. Donc, quand on dit le grand commandement, on parle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais on pourrait dire la grande mission, le grand appel, c'est d'annoncer l'expérience que nous avons faite, quoi, de la partager. Jésus, dans lui-même, vit quand même de cette manière-là. C'est-à-dire que nous voyons dans l'évangile de Jean, il y a un moment, il dit dans l'évangile sur Jean chapitre 4, avec la Samaritaine, après avoir discuté avec elle, puis ils reviennent et ils ont fait les courses. Et Jésus leur dit, mais j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, ma nourriture, ce qui me rassasie, c'est de faire la volonté du Père et d'accomplir son œuvre. Faire la volonté du Père et accomplir son œuvre. Il dit, ça me nourrit. J'ai plus besoin de manger. Il joue un peu avec ses disciples qui reviennent avec, et puis il leur dit, moi j'ai plus besoin de manger. Il vient de faire la même chose avec la Samaritaine qui lui parle, disait, mais donne-moi de l'eau. Puis lui disait, mais il lui parle d'une autre eau qui désaltère complètement. Là, de la même manière, au fond, Jésus me dit, ce qui rassasie complètement, c'est de faire la volonté du Père et d'accomplir son œuvre. Et donc ça nous donne, ça peut nous donner un parfum qui peut nous attirer, en fait. Dire, mais moi aussi, j'ai envie d'être rassasié. Et ce qui rassasie l'âme, vous voyez, c'est aussi d'entrer dans cette joie-là. Alors peut-être une première chose, c'est de méditer peut-être cette semaine, de garder dans l'esprit cette parole de Jésus et nous dire, voilà, si c'est la dernière parole de Jésus, nous sommes vraiment faits, voilà, elle nous donne vraiment une direction très claire pour nous de pouvoir faire des disciples, voilà, voir des personnes qui deviennent disciples, j'y reviendrai à la fin. Vous voyez, pas prendre ce précepte comme une espèce d'injonction de « il faut évangéliser », parce que je trouve qu'en ce moment, parfois on est un petit peu dans cette ambiance, c'est-à-dire « il faut évangéliser », voilà. Oui, vous voyez, la manière dont Jésus accueille la volonté du Père, là il en parle en disant ça me rassasie, en fait. Ça me rassasie. Je suis fait pour ça. Donc essayer aussi de travailler le fait de comment un commandement qui parfois pour nous, je ne sais pas exactement où chacun en est par rapport à ça, mais parfois ça peut nous prendre un petit peu en décalé, ça peut nous paraître un peu pénible d'avoir entre guillemets ça en plus à faire. Il y a déjà beaucoup de choses. Mais de le prendre positivement, voilà, comme quelque chose de bon que Dieu veut pour nous. Pas forcément quelque chose en plus. Il y a un beau psaume dans les Écritures qui dit « Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre ne connaît ses volontés. » Je trouve que c'est un beau passage où Israël dit « Quelle chance de savoir ce que Dieu veut. » Aucun autre peuple n'a la chance de connaître de manière aussi précise. Alors Israël dit déjà ça, et nous pouvons dire la chose. Quand nous savons l'intention de Dieu, réjouissons. Parce que ce qui nous attire, c'est de pouvoir entrer dans cette intention et de la mettre en œuvre. Quoi. Accomplir l'œuvre du Père. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Faire la volonté, mais pas non plus de manière aveugle. Ce serait un point un peu complémentaire avec cette parole. Et être missionnaire, c'est aussi entrer dans une vision. Ce qui libère aussi de la joie dans la vie chrétienne, c'est aussi de comprendre pourquoi nous faisons les choses que le bon Dieu nous demande. Et c'est aussi l'intention de Dieu de nous faire, vous voyez, connaître pas simplement des volontés du type « tu peux faire ci, tu peux pas faire ça », c'est pas tellement ça l'intention de Dieu. C'est qu'il veut nous faire comprendre quelle est son œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde, où est-ce qu'il nous conduit, et que nous entrions dans cette vision. C'est déjà présent dans l'Ancien Testament. Il y a le premier passage avec ça, c'est Abraham. Alors c'est un passage un petit peu difficile, c'est quand Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Et Abraham, et Dieu se dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorre? Et la réponse est non. Mais est-ce que je vais cacher à mon serviteur Abraham? Je ne vais pas lui cacher ce que j'ai l'intention de faire. Le prophète Amos dit la même chose. Dieu ne fait rien qu'il ne l'ait d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et Jésus dit la même chose à ses disciples. Tout ce que le Père m'a enseigné, je vous le fais connaître. Je pense souvent, nous sommes un peu en dessous de ça. C'est-à-dire que nous ne cultivons peut-être pas suffisamment cette idée que Dieu veut nous faire connaître son dessein de manière large, pas simplement à l'échelle de notre petite trajectoire personnelle, parce que ça, c'est des choses qui ne se résolvent pas à cette dimension-là. Dieu veut nous faire comprendre ce qu'il est en train de faire dans le monde, là où nous sommes, en notre temps, chacun de nos amis. Mais nous croyons assez peu à ça, en fait. Donc nous sommes assez peu disponibles à accueillir. Et je pense que tout ce qui est de l'ordre de la mission relève aussi de ça. Dieu, le Christ veut me faire comprendre voilà, ce qu'il veut pour moi, ce qu'il veut pour les hommes en ce temps, et me rendre, on pourrait dire, collaborateur de ça. Mais ça, c'est peut-être aussi un point à travailler. Vous voyez, jusqu'où est-ce que nous sommes convaincus que de cette parole de Jésus, hein, c'est pas moi qui parle, c'est tout ce que le Père m'a enseigné, je vous l'ai fait connaître. Donc quand Jésus dit accomplir l'œuvre du Père, évidemment, tout au long de notre vie, nous pouvons nous attendre à ce que Jésus nous fasse comprendre de plus en plus ce qu'est l'œuvre du Père, pour que nous puissions devenir des collaborateurs. Là, donc, je vous dis encore, par votre travail, par la vie de famille, par la vie de prière, nous entrons là-dedans, mais aussi dans la dimension missionnaire de notre existence. Collaborer. Là, j'ai parlé plutôt de la finale de Saint Matthieu, là où apparaît de manière encore plus nette la dimension de collaboration, c'est dans la finale de Marc. Vous voyez, parce que dans Matthieu, Jésus dit « allez ». Donc parfois, on a un peu l'impression que la mission, vous voyez, Jésus serait au ciel, et puis il nous envoie, voilà, un peu comme des porteurs d'un message. Voilà. Ce n'est pas faux, c'est souvent la principale idée que nous avons de la mission, c'est-à-dire J'ai un message à partager, une bonne nouvelle à annoncer. Alors, c'est vrai, c'est un aspect de la mission, mais c'est un aspect quasiment extérieur, en fait, de ce qu'est la mission. Parce qu'au moment où il dit ça, Jésus dit aussi « Je suis avec vous ». Et dans Marc, Jésus précise, enfin, les choses se précisent, c'est qu'on dit « Quant à eux, ils proclamaient la parole en tout lieu », donc ils annoncent l'évangile, hein, mais de manière simple, donc « proclamaient », ça veut dire « Le royaume de cieux est tout proche », ça veut dire « Dieu est proche », quoi. Change de vie. Donc, la proclamation, c'est pas très compliqué. C'est pas des grands enseignements. C'est Dieu est proche. C'est ça que nous avons à annoncer, puisque nous en faisons l'expérience. Donc, quant à eux, ils proclamaient la parole en tout lieu. Donc ça, ils obéissent à ce qui vient de leur être dit. Le Seigneur, donc c'est Jésus ressuscité, le Seigneur travaillant au milieu d'eux. Ça, c'est quand même une phrase très très forte. C'est-à-dire que quand nous obéissons à ce commandement, on pourrait dire, de la mission, aller, annoncer, quand nous obéissons, Jésus n'est pas derrière. Jésus, le Seigneur est là et il travaille. Donc c'est le même mot, c'est le mot de œuvrer en grec, c'est l'œuvre, il est à l'œuvre. Et il est même spécifié juste derrière, donc ça c'est... Le Seigneur travaillait au milieu d'eux, il confirmait la parole par des signes qui accompagnaient. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus annonce une parole, puis il y a des signes qui accompagnent. Et donc, Jésus n'a pas eu un standing de mission, et puis nous n'y aurions pas droit. C'est-à-dire, nous pouvons nous attendre à ce que lorsque nous obéissons et que nous annonçons, des signes soient donnés qui accompagnent. Donc nous pouvons nous y attendre, et plus nous y attendons, plus nous allons commencer à les voir, ces signes-là. Alors les signes, ils peuvent être de deux ordres. Ils peuvent être de le bon Dieu qui touche la personne à laquelle on parle. Je vous donne un petit exemple comme ça. Il y a un mois à peu près, j'étais devant l'église, on était un nombre impair pour la mission de rue, donc je suis resté tout seul. En général, je fais ça. Donc je reste devant Notre-Dame des Victoires. Il faisait nuit, un temps un peu comme ce soir. J'étais avec mon bonnet et mon truc qui n'est pas un truc très haut de gamme. Donc les gens s'imaginent que je vais leur demander de l'argent. Donc, parfois je me dis qu'il faudrait peut-être que je change de look un peu. Et là, en fait, bon, donc, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, je suis comme ça, il fait un peu froid, je m'approche, les gens, c'est pas forcément très adhérent. Donc là, il y avait deux jeunes indiens qui passaient juste devant, on commence à discuter, et puis ils étaient étonnamment. Alors, ils étaient indiens, donc ils étaient hindous, du religieux. Et ils m'ont dit, ah, mais nous. Alors, ils ne connaissaient pas le christianisme en soi, mais ils vont à Lourdes tous les étés. Il y en a d'autres, hein, c'est les Indiens qui font. Donc ils vont à Lourdes tous les thèmes, ils disent, mais quand on va là-bas, en fait, on aime bien y aller parce qu'on se sent allégé. Donc il y a une sensibilité spirituelle déjà. Et puis lui, le garçon, je pense qu'il avait 18 ans, et honnêtement, des fulgurances, il me posait des questions mais hyper intelligentes. Donc, moi, ça m'a déjà impressionné. Je me dis, bon, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas tout le temps. J'ai des jeunes de 18 ans qui ont des questions très intelligentes. Et après, c'était une évangélisation assez facile, dans le sens où c'était catéchétique. C'est-à-dire, je pouvais parler pendant 4 minutes, ils écoutaient comme ça. Puis après, il y avait l'autre question intelligente qui arrivait. Donc parfois, ça arrive, des missions comme ça. Voilà, puis on parle, puis en fait, ils m'expliquent qu'ils étaient venus dans l'église. Et puis elle me dit, bah oui, parce que là, j'avais envie d'aller dans une église. Forte de son expérience de Lourdes. Et donc, elle avait regardé le soir même église qui ferme après 20h à Paris. Elle avait vu Notre-Dame des Victoires, donc, elle appelle son cousin. Et ils étaient venus là, mais ils s'étaient fait chasser parce que c'était le démontage de la crèche, donc ils n'avaient pu rester que 5 minutes. Alors, ils étaient un peu penauds, donc ils faisaient un tour dans le quartier, puis ils repassent devant l'église. Et je tombe sur eux, ben, je leur dis, est-ce que vous voulez retourner dans l'église? Moi, j'ai les clés. Et donc, on rentre dans l'église, on fait un petit tour dedans, etc. Donc, c'était vraiment... un bon moment, quoi. Ça a duré 20-25 minutes. Les autres rentrent de mission, on termine tous ensemble, on prie un peu pour eux, 3 minutes. Et en sortant, la fille me dit, c'est étonnant parce que normalement, alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les Indiens, mais c'est vrai que les filles indiennes, c'est pas trop, enfin, élevées un petit peu tradies, c'est pas zéro contact avec l'extérieur, quoi. Donc là, un homme qui avance dans la rue comme ça, elle me dit normalement, quelqu'un qui approche, on ne parle jamais avec lui. Elle dit, mais là, c'est comme s'il y avait une voix en moi qui avait dit « écoute ce qu'il a à te dire ». Alors, ça c'est hyper intéressant, ça, ça arrive au bout de 25 minutes. Vous voyez, si j'avais juste parlé comme ça, j'aurais pu ne jamais l'entendre, cette parole-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que et, j'annonce, Dieu, elle repère le signe, elle dit « mais je suis choqué ». Vous voyez, elle était encore sur le truc du départ, vous voyez, en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ça, des histoires comme ça, j'en ai quand même une petite série de gens qui... Mais souvent, c'est au bout d'un moment, ils vont dire... Une fois, j'avais un autre gars comme ça. Lui, il était en train de fumer un petit joint, mais c'était le premier, donc il était encore sobre. Livreur, dans des quartiers un peu difficiles. Le gars qui n'était vie pas facile, donc il venait se détendre au hall. Et là, pareil, donc je vous fais pas... On parle comme ça... Et j'ai parlé de la croix, parce que c'est un musulman, donc c'est vrai que parfois avec les musulmans, je vais essayer de dire en fait, que Jésus est mort, parce que dans le Coran, on dit qu'il n'est pas mort, que ce n'est pas lui qui est mort. Je dis, en fait, Jésus est mort, mais je dis pourquoi, en fait, il est mort. Parce que précisément, il disait qu'il était fils de Dieu et qu'on l'a accusé de blasphème. Donc un musulman, ça peut toujours produire quelque chose. Donc j'ai parlé de ça simplement, hein, mais il y a des phrases simples. Et lui, pareil, fin de la discussion, donc au bout d'un quart d'heure, 20 bonnes minutes, il dit... Ah, quand tu as parlé tout à l'heure, je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui bougeait. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est le signe, moi, j'y suis pour rien. Sauf que c'est exactement ce dont Paul fait l'expérience. Dans les Galates, au chapitre 3, il dit qu'est-ce qui fait que vous avez reçu l'Esprit Saint? Parce que vous avez observé la loi ou parce que vous avez cru à la parole que je vous ai annoncée? Il dit j'ai dépeint. Pour vous, Jésus crucifié. Et quand vous avez reçu ça dans la foi, l'Esprit Saint, vous avez reçu l'Esprit Saint. Et vous avez reçu l'Esprit Saint, ça veut dire que c'est ce qui est marqué dans les actes, c'est-à-dire que les gens, il se passe des trucs, quoi. Il y a des aspects sensibles. Je ne dis pas que c'est ça la mesure de recevoir l'Esprit. Mais dans la dimension d'annonce, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des choses comme ça. Donc je veux dire, ces choses-là arrivent en fait. La première génération chrétienne, ils l'ont vu. Mais là, vous voyez, là, mon musulman, pendant qu'il entend parler de Jésus crucifié, il dit, tiens, c'est bizarre, il se passe un truc en moi. Et après, encore plus, à la fin, il dit, et en plus, il dit, normalement, deux hommes ensemble, je ne leur adresse même pas la parole, je ne parle pas aux homosexuels. Il me l'a fait un peu ambiance comme ça. Mais normalement, je ne parle jamais aux homosexuels. Mais il me dit, c'est comme un peu la même chose que la fille, il me dit, il y a quelque chose qui m'a empêché de vous dire non. C'est des histoires assez simples, vous voyez, c'est des gens comme ça, je veux dire, vous en croisez tout le temps, des gens comme ça. Donc, une parole comme ça. Le bon Dieu peut opérer des signes, indépendamment de nous. Et nous, on annonce, et le bon Dieu, il permet à la personne de sentir qu'il se passe quelque chose de particulier. Et puis, un deuxième type de signe, c'est des signes, on pourrait dire, auxquels nous allons collaborer. C'est-à-dire, je peux recevoir une inspiration pour dire une parole particulière à quelqu'un, ce qu'on pourrait appeler quelque chose du registre un peu prophétique. Voilà. Une parole qui va produire un effet particulier sur une personne. Alors parfois, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être une parole de l'Évangile. Vous dites, tiens, c'est cette parole-là qui me vient, je ne sais pas pourquoi, vous la donnez, et elle peut produire un effet particulier pour quelqu'un. Je me souviens, moi, comme ça, on avait discuté avec un gars pendant 40 minutes, c'était en anglais, donc c'était un peu compliqué, il était... Hongrois ou je sais plus trop quoi, ou tchèque. Et on discute, et puis à la fin, en priant pour lui, il y a une parole qui me vient d'un psaume, mais qui correspondait quand même à des aspects de notre discussion, c'était « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. » Je lui dis « voilà ce qui me vient, et je lui donne, ouais, donc c'est simple. » Et là, le type, il passe un peu, hop, il y a l'aiguille qui fait ça, il dit « Mais that's the secret of my life, c'est le secret de toute ma vie. » Et là, il était complètement en effervescence. En disant, mais je viens. Et donc, on était ailleurs, quoi, dans la discussion. Donc, parfois, on peut avoir, vous voyez, une parole qui peut venir, qui peut. Je pense que vous avez déjà des expériences comme ça, parfois, d'inspiration, même dans des discussions avec des personnes autour de vous, et qui produit quelque chose. Ou bien, ça peut être une vous voyez, en priant pour une personne, une image qui vous dites un peu qu'est-ce que ça vient faire là, et puis vous partagez ça à la personne, ça peut produire un effet. Et le bon Dieu prend soin aussi des gens. Donc, moi, je me souviens une fois, l'année dernière, on avait prié pour un jeune algérien, je pense qu'il venait en France, il était très isolé en fait. Voilà, il souffrait quand même de solitude, travail un peu difficile, etc. Et en priant pour lui à la fin, donc déjà on était un peu ciblé sur, vous voyez, la solitude intérieure et puis le lien avec sa famille. Donc on avait déjà un peu prié dans ce sens-là. Et puis il y a un nous qui a une image sur d'une bague. C'était un peu incongru, si vous voulez, par rapport à la. Ça faisait bague de fiançailles, quoi. On lui partage quand même le truc. Et puis là, il dit, mais ma mère m'a envoyé une bague par la poste il y a 15 jours. Et donc, vous voyez, et lui était très ému de voir qu'on venait retoucher, vous voyez, cette relation avec sa maman qui était son lieu important pour lui. Je ne sais pas ce que ça a produit finalement comme effet. Mais ce que je veux dire, c'est que le bon Dieu fait ce qu'il veut, en fait. Si le bon Dieu a envie de venir prendre soin, manifestement, d'un gars qui souffre un peu d'isolement et qui ne le connaît pas, musulman, il peut le faire. Il peut le faire. De la même manière, pour les signes auxquels nous pouvons collaborer, c'est le prier pour la guérison des personnes. Je dis ça moi-même, il y a 10 ans, j'aurais pas parlé de ça. Ou il y a un peu plus, ouais, il y a une bonne dizaine d'années. Et j'ai découvert aussi, parce que j'ai vu en annonçant, qu'en fait il y avait des signes, comme le premier type de signe dont je vous parle, vous voyez, quand on fait de la mission, enfin, quand on se met à parler, on commence à en voir, surtout si on est un peu attentif. Et quand on commence à voir ces signes-là, on comprend assez logiquement que nous pouvons aussi, je vous dis, collaborer à d'autres signes qui sont de type « quelque chose va m'être inspiré que je peux donner » ou bien « je peux prier pour la guérison d'une personne ». Alors évidemment, tout l'évangile de Jean nous dit que ça ne suffit pas, les signes ne suffisent pas. Mais en sens inverse, vous voyez, moi le premier, on a été très habitué à dire qu'un petit peu, la foi sans les signes, c'est mieux. Qui a été élevé un petit peu comme ça? Non, vous avez de la chance. On a été élevé un peu comme ça, quand même, beaucoup, non? Vous voyez, la foi pure, ce qui est vrai, hein, la foi pure, c'est on s'appuie pas sur 15 000 trucs. C'est vrai, mais c'est vrai pour des gens de l'intérieur, c'est ce vers quoi nous allons. Mais en fait, sans arrêt, nous digérons des signes que nous recevons, plus ou moins significatifs. Et combien plus les gens du dehors ont-ils besoin de points d'appui pour poser des actes de foi? C'est-à-dire aujourd'hui, vous en avez autour de vous, peut-être même dans vos familles, sans doute. Voyez, aujourd'hui, le jeune moyen, on va dire, de agnostique, on va dire, enfin, blessé par l'agnosticisme dans lequel nous sommes, vraiment a une espèce d'atteinte dans son intelligence qu'en fait, connaître Dieu, c'est pas possible, en fait. Je parle pas de toute la sphère un peu islam, ni des évangéliques qui, eux, sont dans un peu d'un autre mood culturel. Mais vous voyez que dans les 18-35 aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qu'on rencontre. Et à la limite, ils vont vous dire, j'aimerais bien vous croire, mais j'ai pas de raison particulière de prendre ce bouquin-là plutôt que celui d'à côté. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une... Vous voyez, de dire que Dieu va donner des signes pour permettre aux gens, vous voyez, d'accueillir, en tout cas d'avoir quand même quelque chose qui... l'oreille qui se dresse à la parole que vous leur annoncez, en fait, il y a une logique profonde. Jésus a fait ça pendant son ministère. Voilà. Et en même temps, Jésus s'est battu parce que les gens, souvent, en restent au signe, parce que les gens sont contents de ne plus avoir mal aux genoux, mais pas, par contre, ils n'ont pas forcément envie de se convertir à l'évangile. Donc, c'est ce qu'on nous raconte aussi dans les évangiles. Il y en a qu'un qui revient vers Jésus, puis il y en a 10 qui sont guéris. En fait, J'ai vu une vidéo en ligne d'un évangélique. Les évangéliques, ils aiment bien se filmer quand ils font des guérisons dans la rue. Donc, le gars, il est là. Il arrive dans un groupe de jeunes qui faisaient du skateboard. Donc, il arrive et puis il dit voilà, moi je prie pour la guérison des personnes. Est-ce qu'il y en a un qui a mal quelque part? Personne, tout le monde se regarde. Non, j'ai pas mal. Puis il y en a un qui dit moi j'ai mal au genou. Il prie pour lui. Le gars n'a plus mal. Bon, du coup, il y a un autre à côté qui dit moi j'ai mal au dos. Il prie pour 8 types comme ça. Puis à la fin, il leur dit vous voyez ça? Et je lui dis je suis pas magicien. Je prie, vous avez entendu, je prie au nom de Jésus. C'est Jésus qui fait des choses parce qu'il l'a annoncé et donc c'est ce qui se passe. Donc c'est Jésus qui toque à votre porte. Est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'il y en a qui ça intéresse de connaître un peu plus Jésus? Et là, il y en a 7 qui partent, puis il y en a un qui reste. Voilà. Et c'est ça, donc c'est les évangiles. Voilà, c'est l'évangile, ça restera aujourd'hui. Donc vous voyez, un signe n'est jamais une contrainte pour des personnes. J'ai vu des musulmans qui ont eu des trucs absolument saisissants. On s'est rappelé 2 fois, puis depuis, plus rien. les gens restent libres. Puis les gens ont leur itinéraire, leur... Mais en tout cas, je vous le dis, peut-être qu'il y en a qui vont un peu se demander d'où est-ce que je sors, mais c'est... Moi, on m'avait jamais parlé de ça, jusqu'à je vous dis, il y a une dizaine d'années, mais on m'a jamais parlé de ça, même au séminaire, en fait. Mais en fait, c'est l'Évangile. Donc l'Évangile est réel, et dedans, tout est vrai. C'est-à-dire que, je vais dire autrement, l'Évangile n'est pas simplement, ne parle pas simplement de la vie de Jésus il y a 2000 ans. L'Évangile parle tout autant de la vie de l'Église. C'est-à-dire le corps du Christ ressuscité. Ou pour le dire encore autrement, Jésus, le Seigneur, continue de faire aujourd'hui dans son corps qu'est l'Église ce qu'il a fait au jour de sa chair. Sauf que maintenant, pour prophétiser, comme il le fait avec la Samaritaine, en lui disant « oui, t'as quatre maris. Voilà. » Elle dit « d'où est-ce qu'il sait ça, d'où est-ce qu'il sait ça, d'où est-ce qu'il sait ça ?» Et elle, ça la marque, vous voyez, ça fait changer. Je ne sais pas si vous, dans l'Évangile de la Samaritaine, quand Jésus a cette parole prophétique, pouf, là, on passe à un niveau plus profond dans la conversation. C'est exactement ce qui se passe parfois quand, je vous dis, il y a une, comme je vous ai, vous voyez, je vous ai dit, par exemple, la parole qui arrive... Et le gars qui dit, mais ça, c'est exactement ce que j'ai dans la vie. Et hop, on arrive à un niveau plus profond dans la conversation. Donc Jésus continue de faire ça, sauf que maintenant, ça va passer par nous. Jésus continue de guérir, mais ça va passer par nous, si nous nous rendons disponibles pour ça. Et il y a quelque chose de très joyeux de faire cette expérience-là. Moi, mon itinéraire personnel de la découverte que Jésus est vivant, c'est plutôt par l'oraison, on va dire. C'est-à-dire qu'adolescent, j'ai découvert l'oraison et j'ai fait... Alors, je croyais déjà que Jésus était vivant, mais progressivement, je me suis dit « Ah, mais c'est vraiment vrai. » c'est de commencement en commencement. À la fois, il y a toujours des moments, parfois, nous faisons une expérience au cours d'une retraite, de quelque chose. Oh, est-ce que vraiment, Dieu... et miséricordieux, ou vraiment Dieu, voilà, vraiment Jésus est vivant. J'ai fait cette expérience-là dans l'oraison. Il est là, en fait. Il est avec nous. Cette parole est vraie, absolument. Et donc, c'est vrai que pendant tout le début un peu de mon ministère, j'étais plutôt à encourager les gens, mais ce que je continue à faire, hein, vraiment à prier tous les jours, en fait, tout simplement, à se mettre en la présence, et puis juste à donner 10 minutes par jour au bon Dieu, ça peut changer les choses, quoi. En tout cas, faire l'expérience qu'il est vrai, qu'il est vivant, qu'il est là. Mais en entrant plus dans la mission et en voyant un peu ces choses là se passer et les gens qui bougent, j'ai vu, c'est un autre lieu, un peu aux antipodes, on va dire, où j'ai vu le Christ à l'œuvre, quoi. Et donc maintenant, c'est pour ça aussi que donc, je suis joyeux de vous encourager dans ce sens-là, mais sans doute certains d'entre vous ont déjà des expériences comme celle-là. C'est vraiment un autre lieu aussi très fortifiant pour la vie chrétienne. Donc, vous voyez, pour résumer un peu ces deux premiers points, aller en mission, c'est pas uniquement porter un message, en fait. C'est collaborer à l'action du Christ en direct. Et la parole de l'Écriture, moi, qui m'a, on pourrait dire, ouvert l'intelligence à ça, c'est dans Jean chapitre 5. Jésus qui dit « Le Fils ne fait rien de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit le Père faire. » C'est un peu étrange, en fait. C'est-à-dire que Jésus, quand il fait quelque chose, il dit « C'est ce que le Père fait. » Alors je glose un peu, je sais pas si... C'est-à-dire que Jésus, quand il s'approche de quelqu'un, ce qu'il a intérieurement, c'est « Qu'est-ce que le Père fait ?» Ou j'allais dire « veut faire ?» pour cette personne. Donc c'est intéressant que la disposition qui est dans l'esprit et le cœur de Jésus, c'est toujours d'être... Il veut collaborer à l'œuvre du Père dans chacune de ses rencontres. Et au fond, c'est ça la mission, en fait. C'est pas « je suis tout seul en portant un message » simplement, c'est « je m'avance avec le Christ qui est là et qui veut faire quelque chose pour la personne ». Et c'est ça qui est aussi excitant, j'allais dire, ou en fait stimulant dans la mission. C'est que, vous voyez, on n'est pas des témoins de Jéhovah qui viennent débiter un truc un peu systématique. C'est-à-dire que je m'approche de quelqu'un, je ne sais pas par quelle porte, vous voyez, le Seigneur va entrer. Et donc, il faut chercher avec lui, quoi. Donc vous voyez, c'est une expérience de collaboration. Paul, il a ce mot-là. Hein. Dieu, le Christ, fait de nous ses collaborateurs. Mais collaborateur, c'est pas un très beau... En français, ça sonne pas très très bien. Mais ça veut dire de participer à la même œuvre. Le Christ agit si j'agis. Enfin, il a besoin, il passe par... faut que je dise quelque chose pour qu'il fasse quelque chose. La compassion du Christ passe par ma propre compassion aussi. La manière dont il peut rejoindre les personnes. Et ceci est très réjouissant, je dirais, à un titre personnel comme chrétien, c'est là où on commence à sentir vraiment la joie de la mission, c'est du coup chaque mission, chaque occasion missionnaire que je peux saisir est vraiment une occasion d'une expérience de collaboration, c'est-à-dire aussi d'union avec Dieu, qui est en train de faire quelque chose pour la personne. Alors, il y a des cas, il y a toujours le contre-exemple de la personne qui se prend la foudre, à la limite, sans que personne intervienne. Mais l'annonce de l'Évangile, elle passe par nous. Quoi. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Même des musulmans qui sont réveillés dans leur sommeil par une voix qui leur parle, parce qu'il y en a un certain nombre, mais il y en a encore une qui m'a raconté ça il n'y a pas très longtemps. Mais c'était biblique, quoi. Son récit, on aurait pu... C'est une histoire biblique, quoi. C'était un mix de Samuel et de l'Annonciation. C'est-à-dire qu'elle a eu trois fois une voix qui lui parle au milieu de la nuit. Mais elle dit une voix, pas une voix dans ma tête. Elle dit une voix comme je vous entends là. Et la quatrième fois que la voix parle, elle lui a posé une autre question. Parce qu'elle s'est dit, mais il faut que je pose une autre question pour voir si je ne suis pas en train de partir. Elle dit, est-ce que je vais trouver un travail? Parce qu'elle a besoin de trouver un travail pour financer ses études. Et la voix lui a dit, tu vas travailler un travail bientôt. Puis elle me le fait en arabe, parce que la voix lui a parlé en arabe. Elle dit, trois jours après, il y a un gars qui m'appelle, il dit, est-ce que vous cherchez, moi je cherche une vendeuse. Elle dit, je n'ai jamais... Voilà. Donc c'est le signe, et voici le signe qui accompagnera. Cette parole que je te dis, et la parole c'était trois fois en arabe, fils de Dieu, parce qu'elle s'était couchée en posant la question, Allah, qui est Jésus? Parce que son copain évangélique, parce que les évangéliques, ils n'ont pas peur, lui a dit, demande à Allah qui est Jésus. Ce qui est une très bonne question. C'est la meilleure question moi, que j'ai abouti pour un musulman un peu ouvert, mais vous voyez, pas lui dire demande à Jésus qui il est, parce qu'un musulman, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas s'adresser à Jésus. Mais demande à Allah. Vous voyez, vous dites à un musulman, vous dites, ouais, on n'est pas d'accord sur qui est Jésus. Y en a un de nous deux qui se trompe, c'est peut-être moi, mais c'est peut-être toi. Bah, demande à Allah. Et alors, honnêtement, un musulman qui demande à Allah qui est Jésus, il se prend la foudre, hein, c'est sûr. Bah oui, parce que ça veut dire que le bouclier défensif, qui est autoporté par l'islam, quoi, qui est anti-chrétien dans le sens qui s'est contre-positionné par rapport au christianisme, là il y a une petite faille. Bah, s'il commence à poser une question à Allah, donc un bon musulman dira jamais je ne poserai cette question-là à Allah. Parce que ce serait remettre en doute ce qui est déjà marqué dans le Coran. Je vous donne des petits tips pour si je veux, vous avez des amis musulmans. Voilà, donc le bon Dieu peut faire ça, mais quand même, au début, vous voyez, il y avait l'ami, il y avait le copain évangélique qui avait dit demande. Voilà. Bon, ben, ça a produit un truc considérable. Voilà, et ça, cette collaboration, c'est quelque chose de très joyeux. Et quand on regarde la catéchèse missionnaire de Jésus, donc c'est Matthieu au chapitre 10, donc je ne vais pas la relire ce soir, mais allez lire ça si vous avez envie de... Tout le chapitre nous dit, enfin, souligne comment, dans la mission, le disciple intensifie sa relation avec le Père. Parce que la mission me met dans une situation quand même de dépouillement, de pauvreté spirituelle, on s'expose un peu. Voilà. Et du coup, je fais l'expérience particulière, c'est un lieu très spécifique pour faire l'expérience que Dieu s'occupe de moi. Il y a d'autres lieux, en particulier là, une pauvreté matérielle, ou des lieux de pauvreté spirituelle. Mais là, c'en est un très particulier, et c'est dans l'enseignement de Jésus. Il dit, quand t'annonces, tu vas faire l'expérience que le Père est là, que t'as pas à t'inquiéter. De la même manière, il y a une autre parole où Jésus dit « Ce que vous aurez à dire, ça va vous être donné par le Saint-Esprit. » Ben ça, cette expérience-là, elle est réservée à si tu prends le risque de te retrouver devant quelqu'un et dire qu'est-ce que je peux bien lui dire. Parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est pas une fiche qu'on débite, c'est j'arrive et en fait je sais pas ce qui va se passer. Et faire une expérience d'inspiration, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est là et qu'il inspire, je veux dire, c'est très joyeux en fait. C'est une expérience très vive du Saint-Esprit. Alors, on peut le faire dans d'autres contextes, mais c'est un lieu où c'est où la bande passante, elle est plus forte, quoi. Donc, si vous avez envie de faire des expériences d'inspiration, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire de la mission de manière un peu intéressée. En disant, en fait, j'ai envie de faire cette expérience du Père, de pauvreté spirituelle, de ne pas savoir. J'ai envie de faire cette expérience d'inspiration de l'Esprit Saint. Ah ben ça tombe bien, mais si tu as envie de ça, il y a un prix à payer, c'est, voilà, prends un risque là-dessus, tente quelque chose, annonce. Et Jésus dit aussi que ça va intensifier la relation que nous avons avec lui, c'est-à-dire, Jésus dit, celui qui ne rougira pas de moi devant les hommes, moi non plus je ne vais pas rougir de lui devant le Père. C'est une parole très forte qui dit, quand tu te mouilles la chemise et que tu prononces le nom de Jésus devant les hommes, vous voyez, il y a une espèce de, je sais pas, de... Ça noue quelque chose entre le Christ et moi. Et chaque fois que je prononce son nom, peut-être avec peur, parce qu'il y a une peur humaine qui est légitime, mais sans honte devant les hommes, il y a quelque chose qui s'intensifie de ma relation avec lui. Et qui engage le moment où je vais paraître devant lui, quoi. Donc vous voyez, je veux dire, moi en tout cas, c'est parmi les choses qui me motivent le plus. On pourrait dire qu'il y a une expérience mystique qui est faite dans la mission. Je vous dis, longtemps, moi j'avais plutôt un peu l'idée que dans la prière, on fait une certaine expérience de Dieu, et puis on va partager cette expérience-là d'une certaine manière. Hein, parce qu'un peu le mantra des dominicains, c'est-à-dire l'action et le débordement de la contemplation, mais c'est aussi vous voyez, ce qu'on a contemplé, c'est ça qu'on va partager. C'est vrai. Mais au moment où je le partage, ce que les évangiles nous disent de manière très claire, c'est-à-dire Jésus dans ses enseignements nous dit, au moment où tu, dans l'acte même où tu partages, où tu annonces, tu vas faire une expérience de Dieu. Et donc ça, l'union à Dieu, c'est ce que nous cherchons tous, enfin, j'imagine. Hein. Voilà, c'est ce qui nous motive, comme disciples. C'est ce que nous voulons. Et Jésus dit, un lieu très particulier pour que s'intensifie la relation au Père, la relation au Fils, la relation à l'esprit, un lieu très particulier, c'est quand tu obéis à ce commandement de ouvre la bouche, proclame. Mais proclame, ça ne veut pas dire se mettre sur une caisse et ouais, on approche les gens avec intelligence, en écoutant ce que Dieu veut faire. Voilà. Et les personnes, bon, parce que c'est mon expérience de la mission de rue, c'est que les personnes, elles le sentent très très vite en fait. Si vous avez si vous débitez un truc ou que vous avez un projet sur les personnes, vous ne passez pas le rideau des deux minutes, en fait. Parce que les gens ne sont pas idiots. Ils n'ont pas envie qu'on les instrumentalise. Si des témoins de Jéhovah vous sont déjà tombés dessus, je sais pas, au bout de 30 minutes, on s'ennuie déjà. C'est insupportable. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, les personnes, au début, elles sont un peu comme ça, en se disant, bon, qu'est-ce qu'ils vont me faire alors déjà, ils ont peur qu'on demande de l'argent. Quand ils comprennent qu'il n'y a pas d'argent, ça va mieux. Quand ils comprennent, en fait, qu'on écoute et qu'on n'a pas de projet, là, tout à coup, il y a quelque chose qui retombe et on passe le rideau. Voilà, et là, il peut y avoir une discussion derrière. Et peut-être pour terminer, ça va faire l'union, le lien un peu avec le thème de la miséricorde dans lequel vous êtes. Moi, un des fruits spirituels les plus forts pour moi de la mission, c'est qu'en fait ça renouvelle très très fortement ma manière de lire, de comprendre les Écritures. Et ce dont je vous parle, là, de dire en fait que l'Évangile me parle autant de la vie du Christ il y a 2000 ans que de la vie du Christ en son corps aujourd'hui, vous voyez, ça c'est quelque chose, je ne disais pas, je n'avais pas l'expérience aussi nette il y a 10 ans. Et un exemple, enfin là, un jour, ça m'a un peu sauté à l'esprit. Un soir de semaine, je lisais comme ça l'évangile, je proclamais l'évangile de, de la résurrection de la jeune fille qui est précédée par la femme hémorroïde qui vient et qui touche Jésus. Et en lisant l'évangile, pour la première fois, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est trois histoires de guérison dont j'ai été témoin ou dont j'ai entendu parler de manière très proche, de personnes, vous voyez, on va dire, avec les entrailles féminines. C'est-à-dire une naissance miraculeuse, mais je veux dire avec des trucs assez précis pour dire que c'est miraculeux. Quelqu'un qui avait de l'endométriose qui a disparu. Et puis une troisième histoire, comme ça, avec quelqu'un, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais qui a eu aussi quelque chose qui ne pouvait plus. C'était une fille qui était comédienne. Et elle venait de dire, quelques mois avant, elle avait dit, oh Dieu, si ça continue, mes problèmes, je ne vais plus pouvoir, en fait. Elle avait été obligée de s'arrêter sur scène pendant un spectacle, etc. Et c'est pareil, en fait, en lisant un évangile, de ne pas être là en disant, tiens, il s'est passé ça, mais en fait, de dire ça, c'est le réel de ce que Jésus fait aujourd'hui. Mais d'avoir ça dans la mémoire qui me vient, ça change un peu aussi les choses. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que le sens spirituel profond, c'est que Jésus donne la vie, pas que Jésus est un guérisseur. Mais le fait que ça soit adossé sur des expériences concrètes libère quelque chose intérieurement de « le Seigneur est là, à l'œuvre, en train de donner la vie ». Voilà, et c'est très joyeux. Et je vous donne un exemple de comment ça change. Vous voyez, par exemple, Luc, au chapitre 15, la parabole des deux fils, qu'on connaît par cœur, parce qu'on l'a pratiquée, on l'a entendue, on l'a refourguée au catéchisme pour les confessions d'enfants, etc. Bon. Et typiquement, une parabole comme celle-là, avec les deux fils, souvent, notre réflexe, c'est de dire, nous appliquons pas mal, vous voyez, la figure du fils prodigue qui s'est retourné vers le père, vous voyez, la dimension de la conversion, etc. Et c'est légitime, hein, c'est-à-dire que saint Augustin, dans ses confessions, il dit, mais c'est moi le fils prodigue. Il dit, je me reconnais à 100% là-dedans, donc il n'arrête pas d'évoquer ce passage-là. Donc c'est tout à fait légitime pour certains d'entre nous de nous reconnaître dans le fils prodigue. Parfois, on se reconnaît dans le fils aîné, qui a été obéissant, qui n'a pas claqué la porte, qui n'a pas quitté l'église dans les années 80, et qui n'est pas entré dans la joie complètement. Voilà, on dit, moi, je suis... Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, ça tourne autour de la joie. C'est-à-dire que la question, c'est d'entrer dans la joie ou de ne pas entrer dans la joie. Donc on a vraiment un très bon évangile qui dit, qu'est-ce qui donne la joie ? Et le focus de cet évangile-là, il est plutôt sur le fils aîné, à qui le père réserve, on pourrait dire, cette parole très particulière. Il lui dit, mais toi, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Donc ça, c'est une parole que Jésus lui-même s'applique quasiment dans l'évangile de Jean, en disant, tout ce que le Père est à moi et tout ce que j'ai est au Père. Je le cite mal. Non, on voit bien que ça peut concerner Jésus. Mais Jésus nous dit en fait que c'est ce qu'elle est pour nous aussi, cette parole-là. C'est un peu des paroles un peu vertigineuses comme celles que je vous citais tout à l'heure. Tout ce que le Père m'a enseigné, je vous l'ai fait connaître. Jésus dit, je n'ai rien gardé, moi. Je vous donne tout. Et là, on a une parole aussi vertigineuse. La parole du Père au Fils qui dit, tout ce qui est à moi, est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais peut-être le premier bien spirituel que le Père veut partager à son fils, c'est juste derrière, c'est il fallait se réjouir. Parce que ton frère qui était perdu, il est retrouvé. Et donc c'est la question, pour moi c'est la question vous voyez, qu'amène cet évangile, c'est quelles sont nos occasions de nous réjouir d'un fils perdu qui revient à la maison. Bon, si vous êtes là ce soir, un soir de semaine, pour venir écouter un truc sur la joie de la mission, c'est que vous êtes à la maison. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes dedans. Voilà. Donc nous, on est plutôt plus concernés par cette parole. Tout ce qui est à moi est à toi, donc c'est une parole pour vous, ça. Tout ce qui est à moi est à toi, dit le Père. Et dans ces biens-là, je glose, mais vous voyez, il y a la joie du Père. C'est-à-dire, le Père se réjouit. Et le Père nous dit, mais ma joie, elle est pour toi. Mais ma joie, pour qu'elle soit pour toi, il faut que tu te réjouisses qu'il y ait un frère perdu qui soit retrouvé. Alors, il y a quelques catéchumènes qui sonnent à nos portes. Je sais pas, bon. Ça augmente partout en France, à Paris, donc on est content. C'est normal, on est en train d'arriver dans les générations non baptisées. Donc je ne dis pas que l'Esprit Saint ne fait rien, mais je veux dire, il y a aussi une statistique sociologique derrière. Hein. Donc c'est bien, mais si nous voulons nous réjouir encore plus, c'est-à-dire qu'à un moment, le début du chapitre de Luc, c'est que, vous voyez, la fin du chapitre, c'est qu'il y a un fils qui revient à la maison, donc on a l'impression qu'il a fait le trajet tout seul. Ouais, donc ça, c'est le trajet du catéchumène qui vient, puis à la fin, qui sonne à la porte. Mais le début du chapitre nous dit un peu autre chose. Le début du chapitre, c'est la brebis qui est perdue, et il y a le pasteur qui va la chercher. Vous voyez, les deux marchent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la part de l'homme qui est « je m'éloigne, je rentre en moi-même, et puis je vais faire le chemin inverse », mais c'est sous-tendu par le chemin que fait le bon pasteur, c'est-à-dire le Christ, d'aller chercher et de ramener. Donc nous pouvons être témoins simplement de ceux qui reviennent, mais nous pouvons aussi collaborer à l'œuvre du bon pasteur qui va chercher. Donc c'est ça à quoi le bon Dieu nous invite. Et c'est quelque chose de très très joyeux. Et donc si nous voulons entrer... Enfin, la joie du Père, elle est disponible pour nous, mais la joie du Père, c'est dit dans l'Évangile, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Comment est-ce que nous allons voir ça si nous n'annonçons pas ? Donc voilà, cette joie, elle est pour nous. Pour qu'elle opère, il faut qu'il y ait un moment il faut en fait laisser le Christ aller chercher les brebis. Et le laisser, ça veut dire le laisser en nous rendant disponibles pour ça. Donc, c'est pas très compliqué, la mission, en fait. J'ai une jeune qui m'a dit ça il y a deux jours, elle a dit, il faut se rendre disponible, donc dans votre... Mais il faut faire attention à ce que vous dites, il faut être prêt à le dire. Sans doute, vous l'avez déjà fait. Mais dans votre prière le matin, vous dites... Saint-Esprit, sers-toi de moi, utilise-moi. Et là, il y a zéro problème, qu'il va se passer des choses dans le monde. Voilà. Peut-être que vous ne saisirez pas les occasions par peur ou par chien au début, mais c'est pas grave. Si vous commencez déjà à voir des occasions qui passent, parce que parfois, je suis sûr qu'il y en a parmi nous, on se dit, bah, je vois pas les occasions, et vous voyez, ça peut arriver. Déjà, demandez à les voir, et puis quand on commence à les voir, demandez à les saisir. On en laisse passer, c'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça, le bon Dieu ne nous en veut pas, il ne nous tient pas rigueur. Rendez-vous juste disponible. Et puis après, quand on commence à... Après, il faudrait partager entre nous, mais quand on commence à goûter ça, cette joie-là, on en veut, quoi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il est leur pied. Si vous avez des questions, des expériences à partager, des expériences joyeuses de mission, bon, c'est pas des expériences malheureuses aussi, mais pas trop d'expériences malheureuses.
La joie, je suis d'accord. Bon, j'ai quelques expériences de mission faites avec la paroisse des années précédentes. Je dirais que c'est plutôt après coup qu'on la ressent, pas sur le moment. Après coup, on a la joie et on rend grâce parce que, moi, je dis mon expérience personnelle, d'avoir trouvé des mots, je dis, mais comment sont-ils venus ? D'avoir trouvé des mots. Et ensuite, bon, ben, je dirais, je ne sais pas ce que les personnes en question sont devenues, c'était quand on allait avec la paroisse sur les Champs-Élysées, à cette époque-là, on pouvait encore le faire. C'était... Je dirais, pardonnez-moi l'expression un peu crue, mais quand on partait vers les Champs-Élysées pour ces deux heures-là, on serrait les fesses parce que, pardonnez-moi le son, mais c'était vraiment ça. On se disait, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Dans quelle gueule de loup je vais? Et puis en fin de compte, on se rend compte que les gens acceptent de venir, de parler. Et puis moi, je me rappelle d'un entretien long qui a duré longtemps après la fin de la réunion. Un musulman noir américain. Bon, par chance, je suis assez à l'aise avec la langue. Ben, ça a duré longtemps, 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 longtemps. Mais je dirais, c'est après coup qu'on ressent, c'est peut-être une action de grâce d'ailleurs, c'est très voisin, d'avoir pu faire ça.
Et non, moi j'entends, vous voyez, j'entends vous dites d'où est-ce que c'est venu, ben, ça correspond quand même à ce que Jésus dit.
Et puis alors, l'autre, ce que c'est venu là, c'est une histoire que je raconte assez souvent. À la fin, on faisait ces rencontres-là avec une équipe équivalente de Saint-Pierre de Chaillot. Alors voilà l'histoire. Une jeune femme de l'équipe, bon, elle est à 6 heures du soir dans la foule des gens, gare de Lyon, dans la foule des gens qui rentrent chez eux. Et brutalement, quelqu'un s'arrête devant elle, il dit « Bonjour, vous ne me reconnaissez pas ?» Dans la foule, à 6 heures du soir, elle me dit « Rappelez-vous, il y a 6 mois sur Champs-Élysées, on a parlé ensemble. Eh bien, j'ai retrouvé la foi. » Vous parlez de signes tout à l'heure, moi c'est un de ceux que je cite le plus, c'est qu'après coup, parfois on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a un clin d'œil de Dieu par derrière pour montrer que la boucle a été bouclée.
Et exactement. Pour nous encourager, à, je dirais, à ne pas avoir la foi pour les autres, paroles semées. Quoi.
Ça veut dire aussi qu'on rencontre quelqu'un, on parle avec lui, on ne sait pas ce qui va devenir, mais je dirais on a semé, et moi je dis après, bah, allez, c'est pour ça de travailler. C'est un peu facile à dire, mais
non,
on n'a pas le choix. Bon.
Vous avez raison. D'autres questions
Oui, moi c'est une petite question, parce que vous avez parlé de ceux qui reviennent, et dans toutes les familles, en tout cas dans la mienne, on a des membres de la famille qui sont devenus anticléricaux, puis des conjoints, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du projet de Dieu, alors on me dit peut-être que mon projet n'est pas le projet de Dieu, effectivement. C'est possible. Moi, je suis très mal à l'aise avec certains proches, en fait. Alors moi, j'essaie de témoigner à ma manière, mais...
C'est compliqué dans le sens où il faut sentir si on est le mieux placé ou pas le mieux placé. Parfois, ça dépend un peu quand, dans quelles conditions les gens ont claqué la porte, etc. C'est impossible de parler comme ça, de manière générale, des situations. Parfois, ça peut passer par vous. Parfois, c'est le silence et la prière et l'intercession qui vont au contraire être nécessaires. Et puis, ça passera par quelqu'un d'autre. En revanche, ce qui est certain, c'est que vous pouvez demander. C'est sûr que de demander, je dirais, un regard prophétique sur la personne, c'est-à-dire de dire comment est-ce que le Seigneur la regarde. Aussi, pour venir corriger parfois une manière de regarder que nous pouvons avoir sur les personnes. Donc j'ai pas de réponse. Après, il y a des choses qui peuvent se travailler. On a fait une séance là, l'autre jour dans un petit atelier du soir sur évangéliser en famille. Bon, voilà. Mais il y a
c'est voilà. Très difficile de trouver les mots en fait parce que c'est des proches. Hein, donc, je pense que c'est presque plus difficile. J'aurais davantage peur si je faisais ça dans la rue auprès d'inconnus. Je pense que c'est presque plus difficile quand c'est des proches.
Oui, parfois le terrain est plus... Bah, c'est pareil dans l'Évangile, hein, quand Jésus dit « Nul n'est prophète en son pays », on voit bien que ça se passe parfois moins bien avec des gens qui le connaissent déjà. Et, ouais. Il y a un avantage au contexte anonyme de la mission.
Oui, oui.
Je suis désolé, j'ai pas de réponse. Mais sinon, de prier, parfois de confier à une autre personne... et de prier spécifiquement, et d'avoir de l'intentionnalité forte dans la prière. Pour moi, ce serait aussi quelque chose qui sous-tend un peu la mission. C'est, vous voyez, parfois, on peut sentir que le bon Dieu nous dit, mais on y va sur cette personne-là, et après, ça va passer par nous ou par quelqu'un d'autre, mais peut-être parfois se laisser inspirer, pas simplement selon nos désirs à nous, mais parfois se laisser inspirer de prier ou voire de jeûner pour une personne... pour sa conversion. C'est aussi un autre aspect, c'est que on n'est pas dans un registre de vendre des places de spectacle, en fait. C'est-à-dire que c'est un combat spirituel et le diable est à l'œuvre. Donc pour les personnes, en fait, il y a un combat spirituel. Nous mesurons un peu le combat spirituel dans notre propre vie. C'est-à-dire que c'est évident que les personnes sur le démarrage, il y en a qui ont vraiment des élastiques dans le dos. C'est-à-dire que vous voyez que l'adversaire ne veut pas les lâcher. Donc il faut de la prière aussi, il faut de... Je ne dis pas ça pour dramatiser, mais il faut avoir aussi conscience que il y a du combat spirituel pour les personnes. On le voit pour les catéchumènes, mais je dirais encore plus pour la... Et le côté c'est semé, fou, il y a une espèce d'enthousiasme. Moi, j'ai plein de rencontres comme ça. Les gens, le gars me dit, mais comment est-ce qu'on peut faire, je te rappelle. Mais vraiment, c'est ultra sincère, quoi. Et puis, en 4 jours, ça retombe.
Oui, j'ai eu des expériences d'évangélisation, j'ai trouvé que c'était assez âpre, je me sentais un peu pauvre, nu. Et pour tout dire, quand ça se terminait, j'avais une espèce de soulagement. Alors je me dis.
C'est pas tout à fait ça la joie de la mission.
Oui, est-ce que c'est pas un manque de foi, en fait, déjà? Ou est-ce que la joie, est-ce qu'elle est forcément d'ordre sensible? Ou est-ce qu'elle vient petit à petit, à force de revenir, elle arrive à percer un cœur.
Moi, je dirais une première chose, c'est que comme j'ai dit au début, je n'identifie pas mission et mission de rue. Hein. Ouais. Donc, il est possible aussi que la mission de rue ne soit pas votre charisme dans le sens. C'est-à-dire, moi, entre guillemets, c'est le mien. Non, mais moi, c'est le mien. Alors, je pense que tout le monde peut se coltiner 2 fois par an de la mission de rue. Mais moi, c'est le mien, donc j'essaye d'en faire 1 ou 2 fois par semaine. Mais je suis très bien là-dedans. Donc, et j'ai des amis jeunes qui sont très bien là-dedans. Mais vous voyez, j'ai un jeune avec moi. Par contre, au boulot, il me dira... Pour lui, c'est une montagne au boulot, quoi. Et sa femme, elle est terrorisée par la mission de rue. Et elle a déjà embarqué... on a monté un petit événement qui s'appelle l'escale. Elle est au ministère de la Santé, donc c'est pas forcément hyper cato-friendly. Elle a déjà embarqué 4 collègues sur des conversations. Elle fait bouger les gens. Donc, c'est aussi à chacun de repérer. Certains, ça va être en famille. Certains, ça va être plus avec des amis, avec des pères. Donc, le bienfait de la mission de rue, c'est que ça nous fait prendre conscience, comme vous disiez tout à l'heure, qu'en fait, globalement, les gens ne sont pas hostiles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années 80 ou 90. Donc, déjà, de prendre la mesure du trottoir et se dire, bah, tiens, le gars là qui ressemble, en fait, il ressemble étrangement à mon collègue Pascal. Et quand on discute 10 minutes en contexte anonyme, au lieu de ricaner comme fait Pascal sur le pape à la cantine collective, en fait, on est dans complètement autre chose. Voilà. Donc en France, comme il y a des espèces de postures sociales, l'avantage du contexte anonyme, c'est qu'on les traverse là. C'est-à-dire, vous n'avez pas le gars à la cantine du bureau, quoi. Vous avez le gars qui vous parle comme ça. Il peut vous dire « ça ne m'intéresse pas », mais il peut rester 20 minutes à vous dire « moi, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas sensible à ça », mais il va rester 20 minutes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et donc de sentir ça va vous aider à parler à Pascal au bureau après, parce que vous dites, derrière la façade, il y a autre chose à aller chercher. Voilà. Donc ça, ce serait un bienfait de la mission de rue, ça peut donner des habitudes. Mais après, moi, je ne suis pas du tout un ayatollah de la mission de rue. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialement faites pour ça, mais il faut trouver... Mon père, par exemple, il a 93 ans, et il branche, entre guillemets, une personne par semaine. Mais lui, c'est en faisant ses courses. Et moi, il m'a dit, ah, ben, faire ce que tu fais et aborder les gens en leur disant, je suis grillure, ça, je ne sais pas faire. Voilà. Mais faire ce qu'il fait, lui, moi, je ne sais pas faire non plus. C'est-à-dire que lui, en 3 phrases, donc il est devant les fromages et il dit, ah, vous aimez bien les bonnes choses. Elle dit, ah oui. Et puis, ben, là, on sait. Et puis il y a la dame qui dit, bon, on ne sait plus faire des vrais fromages, là, c'est encore pas. Il dit, ah ouais, il y a beaucoup de choses hein, qu'on a perdu, qu'on ne sait plus faire. Il commence à tourner comme ça. Et en général, la 3e phrase, hop, il place un petit truc. Donc, si c'est des courges bio, il va dire, ah ben, vous savez que ça, de toute façon, c'est recommandé par Hildegard von Bingen. Les gens disent, ah, vous ne connaissez pas Hildegard von Bingen? Tac, tac, tac. Alors, ça, c'est devant les fromages, ça démarre comme ça. Et puis, la dame lui dit, non, comme il est sympa, oui, c'est un vieux monsieur. Hein, et puis, la dame, elle dit, mais. Vous avez... non, il dit... je sais pas exactement, ils disent leur âge. Et puis alors, lui, il dit... La dame, elle dit... je sais pas, elle avait 45. Et puis elle dit, et vous? Le papa dit, devinez. Bon, alors peut-être par politesse aussi, mais elle dit 75. 75. Et il dit 93. Elle dit, mais c'est quoi votre secret? Et là, il fait... le bon Dieu. Puis ça s'arrête là. Ils repartent et ils avaient parlé de je sais plus quel truc, de compote ou de machin, et ils se retrouvent au stand de compote. Et là, il dit en fait, phase 2 de la conversation, il dit la fille. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a un décalage d'âge comme ça, c'est révélateur d'un charisme un peu missionnaire en fait. C'est-à-dire que quelqu'un de nettement plus jeune, en fait, voilà. Et donc, je dis ça aussi pour dire, l'âge n'est pas du tout un... Vous voyez, il n'y a pas de prime à la jeunesse. C'est-à-dire, quelqu'un de 20 ans pour qui tout va bien, qui vous dit « Jésus est vivant », c'est moins crédible que quelqu'un de 93 qui a la vie quand même derrière lui, une expérience, quoi. Il vous dit « Ça, ça a changé ma vie, quoi. » Et donc là, au stand compote, la fille, elle balance des trucs sur « En fait, ma vie est compliquée, je me joue à m'occuper de ma mère toute seule, machin, truc, etc. Voilà. » Donc, elle, vous voyez, c'est phase 2. Elle partage. Et il se retrouve à la caisse. Et là, elle lui dit « Vous êtes un soleil. » Donc, une phrase comme ça, ça veut dire « Il s'est passé un truc, quoi. » Mais il n'a pas pris son 06. Je dis ça pour dire, vous voyez, mon père, qui n'est ni de la communauté d'Emmanuel, ni rien, ni machin, lui, il a fait partie des focolaristes, pas du tout trop le truc des focolaristes. Les focolaristes, c'est beaucoup expérience de vie, c'est pas beaucoup l'annonce, quoi. Mais il y a une espèce de truc qui est, et quand il avait 50 ans, il faisait pas ça. C'est depuis une trentaine d'années. Moi, je l'entends de plus en plus raconter des histoires comme ça. Et lui, il dit, mais en fait, c'est les trucs les plus joyeux qu'il vit, en fait. C'est de vivre ça. Et il sent des choses, c'est hyper... Non, il me dit, quand on sort de la messe, il me dit, là, il y a une bande passante spéciale. Quoi. Ah, donc c'est intéressant aussi. Et donc, à chacun de vous aussi de sentir, peut-être qu'il faut, quand le père Poté vous dit qu'il faut aller dans la rue, c'est bien d'aller dans la rue. Mais le reste du temps, en fait, c'est à vous de sentir. Peut-être que pour vous, c'est ailleurs, je sais pas où. Essayez de demander au bon Dieu, quoi. Demander au bon Dieu. En revanche, il n'y a pas à se dire, moi, je ne suis pas missionnaire, vous voyez. Ça, cette réponse n'est pas dans le questionnaire. C'est plutôt où comment. Voilà, où et comment. Et puis, il faut tester des choses aussi, parce que évidemment, vous voyez, le côté avant, on serrait les fesses. Hein. Moi, pendant je sais pas, 5-6 ans, j'avais le petit stress d'avance, qui fait que quand on ressort, en général, il y a aussi un côté ah voilà. Maintenant, c'est comme le jogging, c'est-à-dire que c'est, ou la course, comme on dit maintenant, le running maintenant. Si vous en faites une fois par tous les 3 mois, vous crachez vos poumons à chaque fois. Si vous en faites toutes les semaines, il y a un moment où il n'y a plus de. Donc, moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai zéro. Ça me fait rien. Ça me fait rien avant, rien après, presque, dans le sens où. En revanche, ce qui se passe et que je garde dans la tête et le cœur, voilà, libère de la joie, quoi. Et aussi, je suis très heureux de voir des personnes qui découvrent ça. Quoi. C'est pour ça que je suis là. Non, c'est pour encourager en ce sens. D'autres expériences à partager ou questions?
J'ai une question peut-être un peu plus historique. Parce qu'il y a des pays ou des peuples qui ont été très difficiles d'évangéliser. Donc, je pense à la Chine, au Japon, au Vietnam, finalement toujours des vagues de missionnaires pour se rendre là-bas. Est-ce que c'est la joie de la mission qui explique qu'il y a toujours eu des missionnaires pour accepter d'aller se faire décapiter?
Alors, ils ne partaient pas avec le projet de se faire décapiter, normalement. C'est-à-dire que non, François d'Assise, à un moment, quand ils allaient en Rhénanie, là où je ne sais pas où, les gars revenaient systématiquement, enfin, ne revenaient pas du coup. les gars étaient décapités. Donc, à un moment, ils ont dit, on arrête, en fait. Donc, non, je dis ça pour dire, on envoie. Enfin, ce n'est pas des missionnaires, ce n'est pas de la chair à canon. Moi, je n'ai pas les éléments historiques pour savoir... Oui, c'est-à-dire que c'est des personnes qui partaient en donnant leur vie pour aller évangéliser sont forcément habitués. Enfin, quand ça donne vie à quand ça donne forme, pardon, à toute la vie, c'est-à-dire que les gens qui sont missionnaires religieux au service de l'annonce, il y a forcément en fait un appel très très fort, enfin un appel net au départ. Dans une vocation laïque dans le monde, c'est un peu différent, parce qu'on est, ce n'est pas la forme permanente, votre vie, elle est aussi la forme de votre vie, c'est aussi votre travail au sens large, que ce soit côté famille, engagement associatif, civil ou travail dans la sphère économique. C'est aussi tout ça qui est dans la mission laïque. Et donc la partie, la configuration est différente. Là où la question peut être intéressante aussi, c'est que par exemple aujourd'hui, la génération, il y a eu une génération qui a été très difficile. Je pense que c'est la génération de ceux que Guillaume Cuchet, pour ceux qui ont lu le livre, qui ont quitté l'Église en fait. donc des décrocheurs. Vous voyez, c'est tous les gens qui aujourd'hui, enfin, parmi il y en a certains, donc ça va être peut-être vos frères et sœurs, hein, mais qui étaient dans la génération post-68, vous voyez, dans les années 70 notamment, plein de 70-80, des bataillons quoi, qui ont quitté l'Église. Ce fut votre cas. Ah, bah, alors vous devez être précieuse pour aller évangéliser. Alors. Non, mais quand on a fait une expérience, voilà. Et donc c'est sûr que cette génération-là, c'est le fils prodigue. C'est-à-dire quand il vient de claquer la porte, le père ne lui court pas derrière en disant reste à la maison. Quoi. Là, c'est une génération où, très difficile. Et moi, je sais que statistiquement, je me force à aborder des personnes à l'œil de plus de 65 ans. Mais la probabilité de se prendre un scud ou un truc un peu brutal est nettement plus élevée. Ça se vérifie. Le gros taquet dans la tête avec quelqu'un de 25 ans, c'est très rare. C'est très rare. Donc il peut y avoir aussi, c'est sûr que pareil, quand je suis au hall et que vous abordez un black de 25, il y a des chances que ça se passe bien. Quand c'est un bobo de 40 qui se balade un peu comme ça, un petit peu arrogant comme ça, je dis ça entre nous, mais voilà, donc il y a aussi des profils où a priori on peut dire un peu plus difficile, mais bon, là faut y aller quand même. Mais je ne réponds pas tout à fait à la question parce que je n'ai pas tellement d'éléments sur... De fait, la Chine, c'est un peu énigmatique, même si aujourd'hui il se passe quand même des choses plutôt avec le monde évangélique là-bas, quoi. Mais autour de nous, parfois, il ouais, faut aussi sentir. Il peut y avoir des personnes, on va se dire, mon Dieu nous fait sentir que ce n'est pas maintenant. Quoi. Donc vous voyez, l'évangélisation, ce n'est pas un truc de forcené. C'est comme de prier pour la guérison de quelqu'un. Mais on ne prie pas sur tout ce qui bouge ou ce qui porte béquille. C'est-à-dire qu'il faut parfois une inspiration un peu intérieure pour... De la même manière, il faut se laisser guider pour vers qui je vais aller. Quoi. Mais se laisser guider en étant prêt un petit peu à se laisser dépouiller. C'est-à-dire que dans les Actes des Apôtres, une des conversions les plus marquantes, qui est celle de l'eunuque de la reine Candace, l'ordre de départ que Philippe entend, donc il est en train de faire je ne sais plus quoi, et il entend, je ne sais pas si c'est l'ange du Seigneur ou l'inspiration divine, enfin une voix qui lui dit « Va sur la route qui va de Jérusalem à Gaza, tu vas y trouver un eunuque qui a besoin d'être baptisé. » Non, c'est pas ça, c'est « Va sur la route, elle est déserte. » Vous voyez ce que je veux dire, c'est que parfois les inspirations, les points de départ, humilient un peu notre raison. « Va là-bas, il n'y a rien à voir. » Et il y va. Ouais, c'est pas se laisser conduire, mais je dis ça en ayant moi-même du mal à ça, mais se laisser conduire, c'est je parfois, mon Dieu, il nous dit, vas-y, appelle telle personne, et j'appelle, mais pourquoi ? Parfois, l'inspiration, elle va venir dans l'obéissance, quoi. Donc c'est un peu ça aussi, la question d'évangélisation, c'est quand même, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, le fils fait ce que le père fait, c'est-à-dire, j'essaie de comprendre une intention. On va pas être dans une lisibilité complète, hein, mais j'obéis, je me laisse un peu guider, j'y vais par essai erreur. Mais ce qui est évident, c'est que dans un pays comme le nôtre, où aujourd'hui, vous voyez, statistiquement, on a encore 10 minutes,
oui.
Statistiquement, je ne sais pas quelle est la stat là, du quartier, mais à l'échelle de la France, les catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, on est entre 1 et 2%. Hein, voilà, les messalisants, ça gonfle un peu les trucs, c'est les gens qui viennent aux messes une fois par mois. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller à la messe une fois par mois. Mais je veux dire... nous sommes très minoritaires. Il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans les valeurs chrétiennes. Nous sommes très minoritaires. On n'est plus dans des... Guillaume Cuchet, il le dit, on est vraiment passé même... C'est vraiment sous la barre des 10%, donc on n'a plus d'influence sociétale, quoi. On le voit avec les deux lois de cette semaine. C'est-à-dire que ça passe comme ça. Ça bouge plus, quoi. Enfin, nous-mêmes, on est un peu... Voilà. Donc, et dans un contexte comme celui-là... C'est-à-dire, ça devient assez évident que si, les si on veut que les personnes entendent parler, faut y aller, quoi. C'était pas tout à fait pareil encore il y a 40 ans. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a 40 ans, il y avait encore une... Même sur les gens qui étaient en décrochage, il y avait encore des demandes fortes sacramentelles. Donc entre les gens qui devaient demander le mariage et le baptême de leur enfant, on touchait encore des taux très significatifs quand même de la population française. C'est en train de glisser complètement, ça, ces taux-là. Et même sur les baptêmes, je ne sais pas exactement où on en est, mais on est en train de... Je pense qu'on arrive à 20%, peut-être, et ça glisse, quoi. Vous voyez, 20%, ça devient vraiment minoritaire. Mais je dirais, c'est triste, mais en même temps, il faut pas... Justement, il faut pas intérioriser ce truc, vous voyez, passivement. Donc, le positif de ça, c'est que ça nous oblige, d'une certaine manière, à réamorcer certains aspects de notre identité chrétienne. C'est sûr que dans les années 50, même s'il y avait des mouvements qui étaient quand même attentifs à la mission déjà, mais on se sentait moins... Je sais pas, moi, j'ai commencé mon ministère à Saint-Honoré-des-Laux, quand j'étais élu. Il y avait quand même 4000 personnes qui tournaient par... C'est plus le cas, hein. Ça a déjà diminué de moitié depuis que j'y suis passé, mais pas à cause de moi. Mais pas cool. Je veux dire, il y avait 4000 personnes. Quand vous êtes dans un flux de 4000 personnes, ouais, vous vous dites moins, va falloir s'agiter, quoi, potentiellement, parce qu'on se dit, ça va. Donc parfois, il y a une petite distorsion un peu à Paris, mais pour tous ceux d'entre vous qui vont se promener un petit peu à droite, à gauche, mais il suffit d'aller dans l'Est parisien, hein, ou dans certains coins en dehors de Paris, voilà, on voit bien que... Et notamment un décrochage de... Voilà, dans les milieux populaires depuis assez longtemps, où voilà, maintenant, pour beaucoup de gens, c'est page blanche. Voilà, page blanche. Donc annoncer, mais vraiment dans cette conviction que le Seigneur est avec nous là-dedans. Quoi. C'est vraiment, si je veux, enfin, il y a une chose à vraiment retenir et une expérience à chercher, c'est que le Seigneur est à l'œuvre. C'est-à-dire, il s'agit vraiment de collaborer à quelque chose. Il s'agit de collaborer à quelque chose.
Est-ce que vous auriez pu parler un peu de la prière de guérison? Parce que moi je suis engagé dans la pastorale de la santé. Voilà, je vois beaucoup de gens qui sont bien malades, très malades. Et je veux donc prier pour eux, pour la paix de leur cœur, pour que l'esprit vienne les fortifier. Ça, aucun souci. Bien au contraire. Mais prier avec eux pour leur guérison, c'est quelque chose que j'ai jamais franchi. Et que je ressens pas. Mais vous, je sais que vous pratiquez, que vous... Voilà, c'est un des piliers.
Vous êtes dans un hôpital, là, du coup, hein.
Oui.
Alors, je vois bien la problématique. J'ai une paroissienne là qui vient de rentrer aussi comme aumônier dans un hôpital. Bon, on en discute, parce qu'elle avait déjà commencé à le faire un peu avant, mais c'est vrai que quand on est dans un hôpital, c'est assez complexe, parce que, de fait, les gens sont là sur des lits, sur des choses, sur... Après, dans un hôpital, on célèbre le sacrement des malades. Donc je dirais, en fait, c'est déjà là. Après, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très attentif au fait que quand on célèbre le sacrement, on ne demande pas uniquement que les gens aillent mieux dans leur tête, on demande aussi la guérison des personnes. On pourrait en reparler, là, moi, je le pratique personnellement pas dans les hôpitaux, sinon quand quelqu'un m'appelle, en général, quand c'est à l'hôpital pour quelque chose de grave, dans ce cas, je célèbre le sacrement. Donc une prière de guérison dans l'hôpital, honnêtement, c'est possible, c'est comme en France, ça demande une attention très particulière. Je dirais là encore, ça ne serait pas quelque chose à faire de manière systématique, mais peut-être sentir les moments où ça convient, etc. Mais en tout cas, moi je suis disponible pour éventuellement réfléchir avec des gens de la pastorale de la santé pour comment ça peut se faire. Mais moi-même, je vois bien, quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué, quoi. Donc, faut reconquérir un peu de l'espace intérieur. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'on reste confronté au mystère de la maladie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une théologie évangélique de certains évangéliques qui vont dire toute maladie doit disparaître comme ça. Mais à l'inverse, nous ne sommes pas dans une théologie je ne sais pas comment faudrait la qualifier, doloriste, qui dirait qu'en fait, que toute maladie, en fait, ou tout mal, en fait, bah, c'est comme ça. Les évangiles nous disent autre chose. Et au fond, je pense qu'il y a une pratique chrétienne un peu latente. J'ai un ami qui n'est pas un énervé pourtant, mais il a fait ça l'autre jour en prédication, je trouvais ça assez audacieux. C'était un évangile de miracle, de guérison. Bon, en général, on est tout de suite dans le sens spirituel dans ces affaires-là. Et lui, il dit, ben voilà, alors, lui, il a vécu, pareil, une espèce de réveil un peu sur ces choses-là, sur les 4-5 dernières années. Et donc, il interroge, il y avait 80 personnes, une messe d'un samedi soir dans le centre de Paris. Il dit, parmi vous, qui a déjà prié sérieusement pour une personne malade? Donc, il y a une trentaine de personnes sur 80 qui lèvent le bras. Il dit, qui parmi vous a vu une amélioration ou une guérison? Et il y en a 12 qui laissent le bras levé. Donc c'est très intéressant, vous voyez, c'est une assemblée vraiment standard dans Paris. Pas des gens qui ont fait des prières de guérison, de la manière dont moi je pratique, un petit peu, on prie en direct pour la personne, mais eh bien déjà d'avoir porté une intention, alors on pourrait, et qu'il y ait eu quelque chose de situé. 12 sur 30, c'est pas 2 sur 30. 12 sur 30. Voilà. Mais en fait, moi c'est ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans le peuple chrétien, il y a des expériences de signes, des expériences de miracles, des expériences... En fait, il y a tout un gisement qui est quand même là, qui n'est pas loin. Que quand on commence à en parler, les histoires sortent. Donc moi, dans mon groupe de grand-mères, entre guillemets, du quatrième âge, je les embête un petit peu, je les titille un peu, je leur balance des petites histoires comme ça. Quand je vois une guérison, parfois, j'en parle un peu pour mettre un peu d'ambiance. Mais du coup, vous savez, il y en a une qui vient me voir et puis elle me dit... Ah, ben, moi, il m'est arrivé quelque chose quand j'ai fait un pèlerinage en Terre Sainte, il y a 30 ans. Je marchais comme ça, on était à 40 mètres les uns des autres, en silence, et puis tout à coup, j'entends une voix qui dit « Suis-moi ». Je me retourne comme ça, puis je vois quelqu'un qui s'éloigne. Et elle a vraiment compris que c'était Jésus, elle a eu une vision de Jésus. C'est une personne qui c'est un peu comme mon père, quoi, elle est dans son bon sens, comme disent les évangiles. C'est pas quelqu'un qui est un peu en surchauffe. Et elle m'a dit, mais ça, moi, ça m'a. Elle m'a dit, c'est la grâce de. C'était une retraite que je m'étais offerte, c'est quelqu'un d'assez modeste, que je m'étais offerte pour ma retraite. Elle est pèlerinage en Terre Sainte, pèlerinage d'une vie. Et en marchant dans le désert, Jésus qui lui dit, suis-moi. Elle me dit, moi, je vis avec ça depuis 30 ans. Elle a 90, elle a 92. Et la même, qui une autre fois vient me voir, elle me dit, j'avais perdu mes lunettes. Ouais, l'histoire, puis. Elle dit, bon, je fais une neuvaine à Sainte-Thérèse. Moi. Elle dit, j'étais mes lunettes, etc., ça coûte cher, donc je vide mon sac, elles ne sont pas là. Elle me dit, j'avais vidé 3 fois mon sac. Elle me dit, le dernier jour de la neuvaine, elle me dit, j'ouvre mon sac, il y avait les lunettes sur le dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Tout de suite, elle me dit, je n'en parle à personne, on me prendrait pour une folle. Donc moi, comme je parle de trucs un peu comme ça, entre guillemets, en fait, alors que le miracle, comme dit le Concile Vatican II, dit le miracle s'adresse à la rationalité, à l'intelligence humaine. C'est pas un truc de... Non, ça s'adresse à la rationalité. Ça vient chercher l'intelligence. D'ailleurs, est-ce que Dieu est Dieu, quoi? C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est intéressant, cette femme, vous voyez, qui est dans la paroisse, elle me dit, j'en parle à personne. Vous, je vous en parle parce que j'ai vu que vous étiez friendly, quoi. Mais j'ai comme ça une autre personne, vous voyez, j'ai une personne qui a vu la Vierge Marie, je n'ai pas de raison de douter que c'est... Enfin, l'histoire est très très sérieuse, quoi. Et une autre femme qui a eu une vision de Jésus. Elle me dit, oui, Marie, j'ai déjà eu, mais là, vraiment, je vais vous raconter ce que Jésus, j'avais jamais eu. Mais moi, je suis dans le très neuf, c'est des gens hyper simples aussi. En fait, moi, je vois bien, le bon Dieu, celle qui a vu la Vierge Marie, elle dit, moi, je suis pas intelligent. C'est des petites gens. C'est Bernadette, quoi. Hein. C'est des petites gens. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gisement qui est là. Voilà. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire, faisons un truc qu'en fait, on ne faisait plus depuis 300 ans. Non, non, non. C'est là, seulement, c'est vrai que, spécialement les prêtres, en fait, ça fait 50 ans, voire un peu plus, qu'on renvoie quand même, vous voyez, une image de tout ceci n'est pas sérieux. Donc, moi, il suffit que enfin, voilà, quand on parle de ça dans une homélie, moi, le lendemain, j'ai un bon monsieur qui est, plutôt bourgeois, là, dans ma paroisse. C'est le mari d'une chantre de la paroisse. Donc, il est toujours dans l'admiration de sa femme depuis 40 ans qu'il chante dans la paroisse. Et le lendemain, il m'envoie un petit mail avec, je vous dis, les signes qui se sont passés dans ma vie. Mais il me dit pareil. Et la conclusion est la même. J'en ai jamais parlé à personne. Voilà. Et donc, je terminerai avec ça. Parlons, en fait. Parlons. Vous voyez, vous dites, à la fois, c'est pas grand-chose, mais vous dites, je sais pas d'où ça venait, ces paroles-là. Ça, moi, ça m'intéresse d'entendre ça, en fait. Parce que c'est exactement ce qui est marqué dans les évangiles. C'est, quand vous allez le faire, vous allez avoir l'inspiration. Et on pourrait rajouter, et quand vous allez retourner chez vous, vous allez vous dire, d'où ça vient. Mais c'est ça, ça veut dire faire l'expérience que ce qui est marqué dans les évangiles est vrai. Mais le problème, c'est que si je suis tout seul dans mon couloir, et le bon Dieu sait ce qu'il fait, si je suis tout seul dans mon couloir sur mes seules expériences personnelles, je n'ai pas les moyens d'amorcer la pompe. Je dirais comme ça. Pour que la pompe s'amorce, c'est-à-dire pour que j'ai suffisamment d'histoires que j'entends, il faut être connecté avec... Il suffit d'être 3, 4, 5, hein, comme ça. Donc faites-vous des petits groupes WhatsApp, ou je ne sais pas, ou discutez 5 minutes à la fin de la messe, et dites-vous ce que vous avez vécu dans la semaine. C'est-à-dire que quand vous avez vécu quelque chose de cet ordre-là, ou quelque chose de, j'ai prié pour mon neveu, et après la fin de la neuvaine, il s'est passé un truc, tac, je le partage. Et en fait, vous voyez, j'entends quelqu'un qui me raconte une histoire, et ça édifie ma foi. Et si ma foi, ça édifie ma foi miraculeuse, pas ma foi théologale, vous voyez, ma foi de « je m'attends à ce qu'il se passe des choses ». Et si ma foi, et vous voyez, si je réceptionne des histoires du voisin, de mon frère, au lieu de redescendre à chaque fois parce que j'ai rien eu pendant 15 jours, donc le truc retombe un peu, vous voyez, je suis maintenu, et du coup, il y a une ouverture en moi qui est plus forte, et donc il se passe plus de choses. Il se passe plus de choses. Donc, faut annoncer vers l'extérieur, mais ce qui va nous aider énormément à ça, c'est entre vous de vous partager des choses qui se passent. Mais même quand c'est des petites choses, il ne faut pas mépriser les dons de Dieu, même quand c'est des petites choses, vous voyez, se les partager. C'est ce que Paul fait quand il rentre de mission, il rassemble la communauté, et il leur raconta comment Dieu avait ouvert les portes de la foi aux païens. C'est-à-dire, le gars qui ne croyait pas, vous voyez, ma jeune fille hindoue, machin, schlac, elle a reçu un signe. Et donc, le truc, elle l'a encore dans la tête, j'imagine. Vous voyez, où les musulmans, avec qui on avait une parole prophétique avant, on avait dans la tête. Et donc, on va vers lui, on lui demande s'il avait mal au pouce du pied droit. Parce qu'on avait eu cette image-là. Voilà. Et le gars dit, mais comment vous savez ça? Donc, il dit, vous êtes... Et on prie pour lui, puis il n'avait plus mal. Bon. Il rentre à la maison, je veux dire, ça lui... Voilà, c'est le travail. Donc, je ne dis pas ça pour me rendre intéressant, mais c'est-à-dire, en fait, pour dire, il faut parler, en fait. C'est pour ça que je le fais aussi. Vous voyez, racontez-vous des choses. Et en fait, je suis bien tranquille que si vous prenez le temps, vous avez des choses, en fait, déjà, à vous raconter. Autour de la mission, tout ça. Amen. Merci. On peut terminer en priant quelques instants.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Seigneur Jésus, nous te bénissons de faire de nous tes collaborateurs. Nous te bénissons de vouloir nous utiliser pour accomplir l'œuvre du Père. Esprit Saint, viens renouveler nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions voir les occasions de proclamer et d'annoncer le royaume. Saint-Esprit, éloigne de nous tout esprit de toute forme de doute, toute forme d'autodépréciation qui nous fait penser que nous ne sommes pas capables. Emplis-nous de courage, d'audace, pour tenter des choses avec ceux qui ne connaissent pas le seul nom qui sauve, Jésus le Christ. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous conduise jusqu'en la vie éternelle.
Amen. Amen. Merci.